Bon jouir, c'est Agathe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oh, mais qu'est-ce que nous entendons là ? Tic, tac, tic, tac. Eh bien oui, c'est l'égrenage irrémédiable des secondes, le temps qui passe et qui nous broie, nous, pauvres êtres faits de chair et de sexe faible. Et oui, le temps qui nous passe à sa moulinette quotidienne. Alors ça y est, le week-end touche à sa fin. Il est bientôt l'heure du lundi matin, bientôt l'heure de repenser à tous les problèmes que l'on peut avoir mis de côté pendant ce week-end en allant retrouver Roger et Tata Josette pour faire un petit loto, en essayant aussi, eh bien, peut-être d'avoir bu tellement de coups, tellement de bière et d'avoir peut-être pris tellement de coups au cul qu'on se dit que le monde allait s'arrêter de tourner. Mais non, retour au réel, les petits amis. Le monde continue de tourner ainsi que le temps et les aiguilles dans l'horloge. Alors ce n'était pas pour vous démoraliser ce début d'émission, mais il faut aussi parfois se rappeler aux rudes réalités. Car heureusement, pour échapper à tout cela, je vous propose une heure rien que pour vous, une heure encore à gratter pour eh bien, peut-être garder un rapport à votre intimité, un rapport aussi à votre bonheur, votre bien-être, votre épanouissement. Encore une heure à sauver contre le monde autour de nous. Voilà, alors c'est Bon Jouir qui va commencer après cette fort longue introduction. Et nous sommes à l'émission 154, et oui. Et donc, après 1h30 de métal de tout poil, il est désormais temps de se mettre tous à poil sur Canal B. C'est parti.
Bonjour.
Sur Canal B. Alors, nous en avions parlé déjà la semaine dernière. Le moment est grave, mes chers compatriotes, car bien sûr, les chiffres ne peuvent que l'attester, les Français baisent moins. Alors à l'heure du réarmement démographique, ça pose comme un petit problème technique, voyez-vous. Car effectivement, les enfants ne naissent pas dans les choux nés dans les roses, et oui. Mais vous, auditeurices, auditoiresses, auditeureuses de Bon Jouir, vous ne le savez que très bien. Et vous savez très bien aussi que la sexualité n'est pas une affaire de reproduction, mais simplement une affaire de plaisir et de temps pour soi. Mais voilà, les Français font de moins en moins l'amour. C'est une étude qui est parue, réalisée par l'IFOP. 76% des Français ont eu un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois, soit une baisse de 15 points depuis 2006. Alors, je ne sais pas dans, voilà, de quel côté du pourcentage vous vous situez, mais en tout cas, la proportion n'a jamais été aussi faible en 50 ans. Cette baisse affecte autant les hommes, qui ont été 78% à faire l'amour au cours des 12 derniers mois, que les femmes, qui elles ont été à 74%. Et ça se vérifie également dans la fréquence hebdomadaire des rapports sexuels. On fait moins l'amour et moins souvent en 2024. Alors c'était quand même, ça fait quand même très peu de temps 2024, mais bon, début 2024, 43% des Français déclarent le faire une fois par semaine contre 58% en 2009. Bon, à cela peut s'ajouter une raison, si cette étude a été faite en janvier, pendant ce dry January, qui aurait envie de baiser quand on est sobre? On sait bien que alcoolisme et sexualité, ça fait toujours bon ménage. Mais qu'est-ce que je dis? Non, n'importe quoi, bien sûr que non. Bon, donc en tout cas, il semble que le platonisme soit devenu un mode de relation très contemporain. On vit ensemble, on fait des courses, on s'engueule un peu sur le ménage. Et puis on s'aime, évidemment qu'on s'aime, on a des bonnes conversations aussi sur la politique, sur peut-être, je ne sais pas, d'autres sujets, la façon d'élever les chats, mais on ne va plus se coller contre le mur et se lécher les parties. Bon, alors peut-être que la réussite du couple ne passerait plus par la sexualité. Voilà une des réponses des gens qui ont été sondés par IFOP, et bien sûr, la partie importante de ce sondage, c'est que les jeunes de 18 à 24 ans, un quart des jeunes de 18 à 24 ans admettent ne pas avoir eu de rapport en un an. Ça fait beaucoup quand même, et ça fait 5 fois plus de jeunes qui disent ça qu'en 2006. Alors il y a bien sûr la pression de la performance chez les jeunes, on le sait, l'explosion du porno, et puis la sexualité, l'abstinence sont des modes de vie qui ont été acceptés, et ça n'est plus un tabou de ne pas avoir envie de sexualité. Et la question du consentement a peut-être aussi ralenti les choses, mais quelque part tant mieux, hein. Il n'est pas question, pour faire monter les stats, d'avoir des rapports sexuels forcés. Ça, ce serait vraiment pas une très bonne idée. Chez les femmes, 62% des femmes accordent de l'importance à la sexualité dans leur vie, contre 82% en 1996. C'est quand même une baisse énorme. Et l'abstinence pose plus de problèmes aux hommes qu'aux femmes. 60% des hommes ont un problème avec l'abstinence, 30% des femmes. 2 femmes sur 3 reconnaissent vivre facilement l'absence de rapport sexuel, contre 48% des hommes. Il y a aussi, bien sûr, la place des écrans, puisque la moitié des moins de 35 ans vivent en couple sous le même toit reconnaissent avoir évité un rapport sexuel pour regarder une série ou un film. Il y en a 53% qui disent avoir préféré jouer à un jeu vidéo plutôt que de baiser. Et surtout, alors ça je trouve que c'est quand même plus grave, 48% des hommes et 19% des femmes avouent déjà avoir évité un rapport sexuel pour consulter leurs réseaux sociaux, notamment bien sûr Insta, Facebook et TikTok. Alors c'était un sondage qui a été demandé par la marque de sextoy Lelo. Moi ça m'effraie un peu de me dire qu'on préfère passer du temps à scroller sur son écran pour voir quoi quand même globalement. Bon, des vidéos de chats, des gens qui se font du nail art ou bien peut-être du tuning de bagnole ou je sais pas ce que vous avez dans vos algorithmes. On va préférer ça au contact d'une peau contre la nôtre, au contact de lèvres contre nos lèvres, à la chaleur et au bonheur que c'est de pouvoir serrer un corps, de pouvoir se faire toucher, caresser, embrasser, étreindre. Pouvoir aussi de se laisser un peu oublier notre vie. C'est-à-dire que avec les écrans, avec les réseaux, avec tout ça, on s'empêche complètement de soi-même, dans notre corps, ressentir un moment d'oubli de notre écorce terrestre. On va laisser notre cerveau oublier qu'il a des synapses en le faisant bugger devant des écrans qui défilent. Et ça, pour l'évolution de l'humanité, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne chose. Alors Bonjouir a décidé de sortir le plan rouge et le plan chaleur, bien sûr. Donc dans le cadre du plan chaleur, on va vous lire des histoires érotiques, car oui, bien sûr qu'il y a du porno sur les écrans, mais il y en a aussi dans les oreilles, on ne le répétera jamais assez. Le nombre de podcasts, d'applications, notamment Vox ou Cox, qui vous permettent de fermer les yeux et de passer un temps érotique avec vous-même, sans parler d'avoir un partenaire sous la main, ça existe et ça n'est que trop nécessaire. Donc Bonjouir va un petit peu essayer d'avoir une vertu pédagogique sur les 2 prochaines émissions en déclenchant ce plan chaleur et en essayant de vous faire ressentir les bienfaits de la sexualité et de l'éveil au désir dans votre corps. Le challenge est assez important, mais bon, on essaye. N'hésitez pas, en tout cas, à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux de l'émission, sur justement Facebook, Instagram. Mais quoi, qu'est-ce qu'elle dit ? Mais non, oui, évidemment, si vous avez envie, mais vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail sur bonjouir.radio@gmail.com avec simplement un petit fichier audio de vos orgasmes pour nous montrer que oui, vous aussi, vous baisez, et que oui, ça fait du bien, et partagez ça. C'est un petit peu comme la libération de la parole. Plus on parle de certains sujets, plus on incite les autres à pouvoir se libérer sur ces questions-là. C'est un peu la même chose avec la sexualité. Plus on voit de gens dans le métro, le nez dans leurs écrans, en train de scroller sur Insta, plus on aura envie d'en être. Et peut-être que si on voyait ces mêmes gens en train de... dans le métro, peut-être qu'on aurait envie de faire pareil. Je ne sais pas. Allez. They make love. The world has sex. Sex.
Avec grand plaisir. Alors, des raisons pour baiser, ça fait du bien. Ça connecte au présent, au maintenant, au sensoriel, au corps. Ça fait perdre des calories. C'est s'aimer soi-même que de se faire du bien comme ça. C'est de se donner des points de vie. C'est se donner des points de vue. C'est jouer. C'est retrouver un plaisir du jeu, du ludique, de la dique et du lude. Tu aimes mon état flottant sur un petit nuage? C'est quoi d'autre? Oh, c'est... Pour quelle raison? Pour baiser? Bah, c'est quand même vachement génial. Ça permet de ne penser à rien d'autre qu'à ça. Enfin, je veux dire, si on a besoin de se vider la tête, ben, on peut se vider la tête. À défaut de se vider, enfin, tu vois, un peu... Oh, écoute, ça suffit. Je peux compter sur toi pour finir cette phrase, espèce de coquine. J'arrive pour d'autres raisons qui me viennent. Là, faut que j'aille me laver. Je pue justement le cul. Et voilà.
Alors, pour commencer cette plongée dans le monde et dans l'univers joyeux des plaisirs, je vous propose de retrouver la librairie Foutraque de Benjamin Bechler avec un nouvel extrait de l'œuvre Le feu au cul, qui va donner d'ailleurs un petit peu le thème de la soirée. C'est donc écrit par Joko, publié aux éditions Sabine Fournier et dans la collection Les Aphrodisiaques. À vous, Benjamin Bechler.
C'était une invitation à venir l'apprendre, peut-être en récompense de sa magnanimité. Odile, renversée sur le canapé, en extase, se laissait lécher par la jolie brune perdue entre ses cuisses, rincambrée, son cul rond pointé vers Edmond qui n'en pouvait plus. Il se leva pour la piner sans préliminaire. Il n'eut aucun mal, la fille était trempée. Elle poussa un cri d'aise sous son cou de butoir. Odile lui tendit la main et il la prit alors qu'il baisait celle qui lui donnait au même moment un plaisir inédit, extraordinaire, qu'il ne pourrait jamais lui procurer. Comme il accélérait le rythme, la jeune femme délaissa la fente d'Odile pour se concentrer sur la queue d'Edmond qui la pilonnait en levrette, une main sur sa hanche, l'autre qui malaxait ses seins. Odile, le regard enfiévré, admirait le visage de son amante, tout en se donnant elle-même du plaisir. Edmond eut l'élégance de jouir vite pour les laisser seuls et annonça qu'il montait dans sa chambre. Ce soir-là, Odile goûta une chatte pour la première fois. La première d'une longue série, car son intérêt ne se porta plus par la suite que sur les femmes, comme l'avait deviné Edmond. La belle brune lui avait ouvert les portes d'un monde nouveau auquel elle l'initia. Odile tomba follement amoureuse. Elles eurent une liaison orageuse, passionnée, jusqu'à ce que son amante la quitte pour une fille de son âge. Elle en fut désespérée. Mais cette relation ne lui laissa aucun doute sur ce qu'elle aimait vraiment, les femmes. Avec elles, elle se montrait ardente, passionnée, avide d'un plaisir charnel qu'elle n'avait jamais connu avec les hommes. Malgré le chagrin qu'elle avait éprouvé après cette première rupture, son désir était devenu si fort qu'elle avait enchaîné les conquêtes. Goûter à tous les délices lesbiens, c'était plus à dévoyer des femmes qui ne juraient que par les hommes, les plus belles, les plus convoitées. Elle s'était délectée de l'orgueil de leur faire perdre la tête au point qu'elle la suppliait de les baiser dès que leur petite amie avait le dos tourné. Il arriva même qu'elle les quitte pour elle. Et puis un jour, elle avait rencontré Sandra. Elles eurent une vraie liaison. Sandra lui fit découvrir d'autres pratiques, révéla son goût pour la soumission. Elle devint son esclave. Odile éprouva une jouissance inouïe dans l'obéissance et l'humiliation. Sa maîtresse la contraignit à faire des choses qui la plongèrent dans des abîmes de volupté. Elle fut battue, prêtée, vendue, forcée par des hommes pour l'agrément de celle qu'elle aimait. Edmond n'ignorait rien de tout ça. Il participait même parfois à l'asservissement de son épouse et devint très complice de Sandra, qui l'appréciait. Pendant cette période, il recommença à coucher avec Odile. Sa maîtresse l'obligeait à le sucer devant elle tandis qu'il parlait de choses et d'autres. Le lourd Martin éperon a cinglé son cul ou son dos. Odile connaissait donc très bien la maison où Sandra les recevait ce soir. Autrefois, elle avait occupé la même place qu'Alice. Et c'est ici qu'Edmond venait leur rendre visite tout le temps que dura leur liaison. Les années avaient passé et cette relation s'était muée en profonde amitié. Sandra ne tombait pas amoureuse. Quand elle se lassa de son esclave, elle ne l'abandonna pas pour autant, mais l'aida à passer à autre chose. Il leur arrivait, comme ce soir, de reprendre leur jeu. À présent, il n'y avait plus qu'avec Sandra qu'Odile prenait plaisir à se soumettre. Depuis leur rupture, par une évolution naturelle des choses, elle était devenue à son tour une dominatrice exigeante. Tandis qu'Alice pompait Edmond, celle-ci comprit ce qui se passait dans le salon, entre sa maîtresse et la belle femme aux yeux verts. Elle s'interrompit pour tenter de voir quelque chose, mais d'une gifle, Edmond la rappela à l'ordre. « Tu te crois où, ma chérie ?
Rappelle-moi ce que tu es. »«
Votre putain, monsieur. »«
Alors sus !» Alice reprit, contrariée. Était-elle jalouse ? Pour la première fois, sa maîtresse jouait avec une autre en sa présence. Edmond lui malaxait les seins sans délicatesse, la traitait comme une vraie putain, l'insultait. Quand elle entendit Sandra ordonner «
Lèche, salope, comme je t'ai appris !»
Puis le sifflement de la badine d'osier suivi du cri d'Odile, elle se mit à pleurer en suçant Edmond, qui crut que c'était à cause de lui. That's real good.
Bonjour.
Sur Canal B.
Pour toi, je pars à la guerre. Je rigole, je vais pas le faire. Je viens d'acheter une paire. Jamais je salis mes affaires. Tu vois bien que j'ai bu. J'ai pas compté les verres. Les deux pieds sur terre. Mais je te donne le mal des mers. C'est bien que j'abuse, je sais pas comment me taire. Y'a pas d'excuse, c'est juste pas comment faire. Je voulais amorcer la chute, mais elle était trop amère. Puis tout ça c'est du bluff, tu mâcherais dans tes DM. Au fond moi j'aime bien tes petites fesses. Je voulais juste qu'on danse et que jamais on s'arrête. Où va le reste? Au fond j'aimais trop tes petites fesses. Que je peux te donner ce résumé des mots de tête. Et c'est la merde.
La lecture de Benjamin Bechler s'est enchaînée avec le morceau de Lynn L-Y-2-N intitulé « Tes petites fesses ». On va enchaîner maintenant avec la lecture d'une nouvelle qui s'appelle « La perle rare » qui a été écrite par Anne Vassivière et qui a été publiée dans le recueil « Hold Up 21 » d'Abigail Auprin. Vous savez, ce recueil qui contient des nouvelles écrites par des femmes, nouvelles érotiques évidemment, avec des photos magnifiques. Et on avait déjà parlé de ce gros ouvrage, de ce gros et beau livre qui a été publié aux éditions Anne Carrière. Alors donc, on se plonge dans « La perle rare ».
I fall in love too easily. I fall in love too fast.
Sophie Musarde dans le club libertin où elle a ses habitudes. La lumière rouge coule jusque dans le moindre recoin. À l'accueil, une musique feutrée se prend pour du jazz. Puis c'est le royaume du regard. Les corps se soupèsent, s'envisagent. Silhouette en 8, sertie de dentelle noire pour l'occasion, la belle a outrageusement accentué l'amande de ses yeux bleus. Lèvres et pommettes carmin mettent en valeur l'ovale du visage. Le cou est long et droit. Le nez aussi. Le regard ne tremble pas davantage. Un chignon rassemble les longs cheveux en une courbe distinguée. Une spirale à la Vertigo. Ses coiffures font l'admiration de son entourage et Sophie reçoit les compliments avec grâce mais sans surprise. C'est une personne à l'allure soignée qui connaît ses points forts et en use quand bon lui semble. Une femme d'aujourd'hui. Installée à l'extrémité du comptoir laqué du bar, Sophie sirote un alcool fort et laisse venir les hommes. Décolleté plongeant, volume généreux, elle s'amuse des flatteries faciles déposées à ses pieds dans l'espoir de poursuivre bientôt dans les alcôves du sous-sol. On ne pousse pas la porte de ce genre d'établissement par simple instinct grégaire. Par-delà l'entrée en matière d'une conversation convenue, Sophie se régale de l'étincelle qui bouffe la prunelle des mâles. Elle sait d'expérience que les moins bavards seront les plus efficaces quand il s'agira de faire parler les coups de rein. Les femelles à l'entour minaude, elle a l'aplomb des beautés de 50 ans. Elle n'a personne à convaincre. La maturité de ses atours parle pour elle. Son regard est franc, ses formes semblent fermes et appétissantes. À quiconque a des yeux et une queue à satisfaire. Alors à quoi bon en faire trop? Elle n'a personne à trahir non plus. Ce n'est pas l'attrait de l'interdit qui l'a fait resplendir. Elle avait accepté de fréquenter les clubs pour faire plaisir à Pierre, pour le sortir de son addiction aux écrans. Son compagnon s'était enfermé dans le virtuel des réseaux sociaux, vidéos et jeux en ligne. Mais le couple n'avait pas survécu à l'expérience libertine. Pierre était parti vivre en province avec une jeune femme rencontrée lors d'une soirée. Il y avait un an de cela. Depuis, Sophie continue à s'adonner à ses rencontres charnelles pour vivre plus intensément que ses amis installés en ménage frileux. Elle n'y boude aucun plaisir. De toute façon, le meilleur sexe, c'est ça, non ? Se dit-elle, persuadée de se sauver ainsi des autres exigences de l'existence. N'est-ce pas le seul moment de la semaine où elle décide librement de ce qu'elle veut et où son souhait est respecté ? Dans ce monde à part, un refus n'entraîne ni drame ni chantage et un oui est un vrai oui. Au sein de l'entreprise où elle travaille, ce n'est absolument pas le cas. Elle trône donc là, sereine et éclatante. Observe ce qui se trame. Dans un renfoncement encadré de lourds rideaux violets, une fausse blonde à petits seins se fait caresser par un couple. Ils lui remontent les cuisses et vont mélanger leurs doigts dans sa chatte. Au bord de la piste de danse où les corps se frottent et s'encouragent à se dévêtir, une brune suce qui veut sur un divan. Elle ne quitte pas son mari des yeux. Il lui donne la main. De l'autre côté de la pièce, une gironde adossée à un mur accueille sous sa longue robe de soirée ceux qui se présentent à genoux devant elle. Son visage est magnifié par un loup pailleté, sa bouche se tord au plus vorace. Il est temps de bouger. Sophie fait un tour. On la frôle, on la caresse. Elle se laisse courtiser le corps et se déplace dans le seul but de faire admirer sa croupe. Elle maîtrise si bien la démarche chaloupée sur talons aiguilles. La boucle de sa chaussure droite est trop serrée et lui lacère insidieusement la chair. Peu importe, puisqu'elle se sait désirée en diable, tout cela la nourrit jusqu'à la moelle. Ici, une grande charnue fait signe à un jeune homme de s'en tenir aux caresses. Là, des jambes striées de barésie s'ouvrent pour un ventru au pantalon baissé. Un jeu de miroir répète la scène à l'infini. Ça rôde de partout, ça piétine, ça hésite, et puis ça se précise, s'introduit, ça se décide et c'est la grande mêlée. Une intimité embrasse un couple dont l'homme a la chemise ouverte sur un torse mat et imberbe. Il louvoie jusqu'à l'entrée balisée de néon qui mène au sous-sol. On aperçoit le colimaçon de l'escalier. Près de Sophie, deux hommes emboîtent le pas d'une trentenaire à la chevelure flamboyante. Le trio descend dans l'antre des niches à plaisir. Sophie a suivi un grand homme froid et guindé jusqu'à une alcôve. Collé tout contre le torse velu qu'il vient de dénuder pour elle, elle sent ses larges mains dégrafer l'arrière de sa robe. Le vêtement glisse à ses pieds et s'y étale en corolle, comme une auréole inversée, dévoilant une culotte aux trois quarts dévorée par son sexe trempé. L'individu soulève la plantureuse et la dépose sur le cuir de la couche. La peau rencontre le froid du revêtement. C'est un lit haut qui assure aux voyeurs agglutinés une vue parfaite du détail des va-et-vient. La dame accentue sa cambrure à l'idée d'être ainsi exhibée. Elle mouille de plus belle. Dans d'autres parties du sous-sol qui les abritent, gémissements rauques et clairs envolés se font entendre. Des femmes jouissent. Cri primaire, configuration troglodyte du lieu, repère animal. On se renifle. Mâle et femelle, queen et miaule de concert. C'est extrêmement bon. Ne résistant plus à ses promesses de saillie primitive et publique, Sophie sort son opulente poitrine qu'elle malaxe tandis que l'homme lui pince les tétons. Les voyeurs empoignent leur instrument. Le type dévait les meilleures parties de son anatomie masculine, les plus rouges, les plus gonflées. Il est sur la belle, elle passe la tête sous son aisselle et y fourre le nez. C'est presque aussi trempé que sa chatte, acre et trempé. Ivre de virilité, elle se remplit poumons et naseaux tandis que son beau chignon s'écrase comme un fruit trop mûr. Sa main rejoint le sommet de son pubis, elle commence à se caresser. L'homme lui saisit alors le poignet et porte les doigts de Sophie à sa bouche pour les humecter. Il les lèche et bave dessus. Quand il les redescend, dégoulinant à sa chatte pour qu'elle reprenne ses caresses, il se décale sur le côté afin que les agglutinés voient bien la scène. Il écarte les grosses lèvres, dévoile les plis des petites qui l'étirent largement. Il montre aux autres combien le trou est vaste, rouge et luisant. Les mateurs s'astiquent ferme et elle les regarde faire avec jubilation. L'un d'entre eux a la bouche particulièrement tordue de plaisir. Plus il écarquille les yeux, plus son rictus se difforme. Sophie accroche son excitation aux commissures serrées du voyeur et croit jouir 10 fois de cette vision qui la comble. Elle sait exactement ce qu'il contemple. La chair des cuisses comprimée par l'élastique noir du porte-jartel, la peau qui se glisse sous l'assaut des caresses, la présentation de son trou béant, les palpitations de son vagin bouillant, les crachats précis que le type lui envoie au fond de la chatte. La généreuse cherche les yeux hagards des mâles transis de tension et sa chair ne tremble plus, elle vacille. C'est la grande contagion du désir. Est-ce qu'ils aperçoivent la perle rouge collée dans son nombril ? Celle qu'elle s'efforce de garder en place pendant les ébats pour cacher un ombilique qu'elle juge laid et dont elle a honte ? Personne ne connaît la véritable fonction de cet ornement de pacotille, ni les efforts méritoires qu'elle fournit pour qu'il ne tombe pas. Encore moins son défi personnel de le maintenir en place, la crainte superstitieuse que si elle le perdait dans la nuit trempée de stupre, elle se perdrait elle-même. « L'homme, froid et déterminé, alterne langue, doigt et écume au fond de la vulve de Sophie, tandis qu'elle s'astique compulsivement. Des grappes de bites se branlent autour d'eux. Un son s'échappe, long, plaintif, de sa bouche ouverte. Elle ne voit plus rien de distinct. Tête renversée en arrière et yeux révulsés, cheveux libérés de toute attache, l'opulente vient de s'abandonner à sa première extase de la nuit. L'entrée du club étant bien trop chère pour qu'il s'arrête à une si petite victoire, le grand type au torse velu inverse les positions et s'allonge sous elle. Il l'empoigne par la tignasse impératif. Il enserre sa prise et l'enroule autour de sa main. La maintient fermement et la descend jusqu'à sa queue. Le rouge carmin des lèvres de Sophie a vécu, l'homme les presse contre son sexe violacé. Elle lèche. Il la déplace ensuite vers ses couilles. Elle les bouffe. Le troupeau serré des poils pubiens du mec lui agace les narines. Elle baigne dans sa chaleur de mâle, y baffre avec la bouche, avec le nez. Il lui impose d'incessants allers-retours entre trique et testicule. Elle est à califourchon sur lui. Il l'empale sur toute la hauteur de son pieu. Il est long. Il va loin. Il est large. Magnifique. Le bassin de la belle s'active sur un rythme long et profond pour le sentir mieux. Trop lent pour lui. Il la retourne sans démater de sa chatte et la voilà à quatre pattes. Les voyeurs matent ses seins devenus mamelles branlantes qui se cognent en cadence. Le rythme a changé de camp. L'étalon qui la tringle fait applaudir ses pies selon son bon plaisir et les mains des spectateurs débordent de foutre. Sophie geint de sentir son corps se faire bête pour en satisfaire d'autres. Une nouvelle queue se présente. Bienvenue. Le premier homme est partageur. Il remet le corps de la dame au-dessus du sien pour offrir son cul au nouveau venu et continuer à lui limer la moule. Il lui claque même les fesses pour qu'elle creuse le bas des reins qui accueillera la seconde bite. Elle s'exécute, flattée. Le nouveau type a dégainé. En tournant la tête, la cinquantenaire aperçoit sa barbe et sa jeunesse. Et surtout, la chose droite et très nervurée avec laquelle il tapote Dru pour lui négocier le cul. Elle aime le défi d'accueillir de grosses queues dans un trou au réflexe contraire. Sophie ne rechigne pas à s'oublier dans une jouissance un peu contrainte. Le barbu bave sur son orifice le plus brun, le prépare d'un doigt gourd, puis de deux. Il touille et tourne et grogne d'anticipation. Le premier homme s'agrippe aux hanches de l'opulente pour être sûr de rester au chaud de sa chatte. Chacun cherche à assurer son propre plaisir, coûte que coûte. Croyant un instant que le joli cul lui échappe pour mieux coller à la bite du premier, le jeune barbu se décide. Il s'introduit d'un trait, la déchirant presque. Sophie est maintenant monture chevauchée, doublement pénétrée. Chair et désir à vif, incapable de décider si elle gueule d'extase ou de douleur, elle laisse un son de rocaille lui remonter du ventre pour imploser dans sa bouche entrouverte. Comme chaque samedi soir, elle lutte pour garder ses deux trous disponibles. Derrière elle, le jeune redouble de vigueur, excité par les beuglements, par les seins qui frottent et balancent leur beau poids sur le ventre tendu du mâle dessous. Ses ongles s'impriment dans la chair des épaules pour maintenir la belle à sa portée. Il commente ses coups de boutoir par des sons gutturaux qui la font chienne lubrique. La chair de son rectum la cuit, sa vulve est éteinte. Sophie n'a presque plus de souffle pour geindre et se contente de rester, bouche grande ouverte, en proie à la quasi-sidération de se retrouver encore et encore dans cette situation un samedi soir. Elle tue alors toute velléité de mouvement cadencé, renonce même à gémir, laisse les bites faire. Les mâles trouvent leur rythme qui convient à leur jouissance, illusoire moment d'harmonie. Lui vient en tête l'image d'une brune aux yeux paniqués qui se faisait prendre par 4 bites dans une vidéo pornographique regardée jadis avec Pierre. 2 alternaient dans sa chatte, 1 dans son cul, 1/4 s'enfonçait jusqu'à sa glotte. Et 1/3 verge se présente aux lèvres de Sophie, qu'elle ouvre par réflexe. Elle pompe et suce. Le nouveau venu se branle dans sa bouche. Elle ne regarde même pas à quoi il ressemble. Elle s'applique simplement à faire tenir les 3 bites dans son corps. Lutte, se contorsionne, se dit qu'elle aime ça. Fille de la dentelle des bas et talons, du rouge vermillon au contour bien tracé, de la jolie perle cachant la laideur du nombril. Ça glisse de partout, ça force et ça dérape. Fille de l'ovale parfait et de l'esprit fin, la belle n'est plus que muscles à bout de force. Ça rippe, ça sort à moitié, ça se réintroduit, c'est brouillon. Ce n'est pas ce qu'elle veut de sa vie, ni de son sexe. Elle est si lasse. Son clitoris n'est ni au fond de son vagin, ni au plus noir de son cul, encore moins au niveau de sa glotte. Elle pense à la marathonienne, vue la veille à la télévision qui tenait bon, grimaçante et crispée, soufflant toute la douleur de ses membres et de sa volonté sur la piste, consciente du public qui la regardait, des caméras qui attendaient sa chute pour la plus grande satisfaction des spectateurs et qui s'est écroulée. Elle pense à ça et au documentaire qui suivait sur le carnaval de Rio et ses flonflons. Les seins refaits et les sourires radieux des femmes à plumes, le galbe artificiel de leurs fessiers luisants, le torse huilé des hommes. Elle revoit ensuite le visage du vigneron, interviewé dans l'émission d'après, celui dont les cépages avaient été rachetés par la Chine, puis zappe mentalement sur l'enfance difficile des surdoués dont parlait la rediffusion de 1h du matin. Toute sa nuit précédente de télévision défile dans sa tête. Sophie décroche complètement. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, et c'est toujours au même moment qu'elle se dédouble, quand 1/3 vient investir sa bouche. C'est lorsque son corps est bouché de toutes parts qu'elle se regarde d'en haut, comme le racontent les accidentés de la route. Elle a mal et elle décroche. Ce qu'elle voit, c'est une collection de satisfactions mornées, des plaisirs qui galopent sur un rythme métronome dont la ligne d'arrivée est l'éjaculation. Une jouissance dont l'intensité sonore est inversement proportionnelle à celle ressentie. L'obligation de résultat suite à investissement de coups de rein. L'orgasme qui vit là en troupeau n'accueille rien. On ne s'y rend pas comme au bord d'un précipice où l'on accepterait de tomber pour voler. Tous les orgasmes ne libèrent pas. Ceux que Sophie trouve ici ne lui font pas du bien. Ils ne sont pas absences heureuses. Elle s'ennuie et décroche. L'homme qui lui avait fourgué sa queue dans la bouche l'en désinvestit et file jouir ailleurs. Le jeune barbu qui lui éclatait l'anus entreprend maintenant de partager sa chatte avec le premier, le grand, froid et guindé. Ils sont à 2 dans son sexe et la dame réalise qu'elle ne sait plus fermer la bouche, ni jouir. On lui serre sa cage thoracique pour maintenir son trou à disposition des 2 verges. Elle a du mal à respirer et ils s'en fichent, ne s'en aperçoivent pas. Elle garde la bouche grande ouverte, mais rien n'en sort plus. Aucun cri, aucun son et presque pas de souffle. Sophie se tient à une frontière et contemple un désert. Celui de l'injonction à jouir, quoi qu'il en coûte. Celui de l'asservissement par obligation de liberté. Sa vie sexuelle ressemble à une vengeance contre elle-même. Elle laisse cette évidence lui éclabousser les tripes. La révolution sexuelle est un lamentable échec pour les femmes, se dit-elle en enfilant une culotte trouvée au milieu de celle éparpillée par la partouze et qu'elle pense reconnaître comme étant la sienne. Au fond, peu importe de quel cul la dentelle a été arrachée quelques heures auparavant, ces nuits-là, toutes les chattes sont grises, s'il leur reste des poils, et les lumières tamisées de rouge n'y changent rien. L'assouvissement des désirs à plusieurs fait à Sophie l'effet d'un alcool fort, ne laissant aucune saveur en bouche, seulement de mauvaises vapeurs qui tapent aux tempes. Le sentiment aigu d'une perte de temps et de soi qui taillade la poitrine. Liquides, muscles et organes se sont mus, pas émus, et quand la généreuse ramasse son corps et son imagination pour les ramener à la maison, elle constate qu'ils sont encore plus secs que la fois précédente et que la petite perle qui cachait son nombril est tombée pour la toute première fois.
Quelquefois je me glace, j'aime bien remettre les choses en place, et j'en veux à ces gens qui s'expriment comme des glands. Vous messieurs dans la rue, quand vous matez un beau cul, vous murmurez bon sang de bois, quel beau derrière est là. Dieu que ce langage-là me blesse, parler ainsi d'une belle paire de fesses. Laissez-moi glorifier sans façon de nos dames ce noble tronçon. Y a d'abord le curon, le cul qui se fait pas de mouron, très à l'aise dans la mouise, autant que chez la marquise. Y a le cuba le misérable, celui qui fait des trous dans le sable, et y a le cul rebondi qui marque toujours midi. Mon préféré c'est celui du 7, son merveilleux petit cul en trompette. C'est la map monde du bonheur, c'est vraiment lui le cul de mon cœur. Y a le cul un peu teigne qui aurait besoin d'un coup de peigne. Puis y a le cul de René qui souhaite la bonne année. Y a le cul prolétaire, faut être deux pour le faire taire. Et y a le cul Aristo qui dit jamais de gros mots. Mon préféré c'est celui du 7, le seul qui est des senteurs de violette. Quand je le vois pas d'une semaine je pleure, c'est vraiment lui le cul de mon cœur. Y a le cul de Florence qui dit toujours ce qu'il pense. Puis y a le cul de Maggie, celui qui est fermé le mardi. Quand il pleut, celui qui frise, c'est le gentil cul de Maryse qui résonne comme un tambour et gagne tous les concours. Mon préféré c'est celui de Lucette, le seul qui se monte jamais la tête.
qui sait être là dans le malheur. C'est vraiment lui le cul de mon cœur. Il y a les culs à moustache, les coiffeurs se les arrachent. Et les culs les plus cotés, ceux qui ont l'arrêt de côté. Les culottés, les cupides, il y a les culs qui prennent le bide. Les culs fanés de jadis, en forme de fleurs de lys. Mon préféré c'est celui de Lucette. C'est le paradis en chemisette. C'est un cul classé de grand seigneur. C'est vraiment lui le cul de mon cœur. J'ai couru, j'ai bien vécu. J'ai vu des milliers de culs. Mais y'a que le cul brésilien dont l'arôme se retient. J'ai vu les culs des mouquaires qui ont besoin d'une moustiquaire. J'ai vu le cul d'Hashimoto, celui qui prend les photos. Mais je préfère quand même celui de Lucette. Ne le frôlez pas de vos fourchettes, vous les tasses de fesses amateurs. Car c'est vraiment le cul de mon cœur.
Alors après cette lecture de la nouvelle d'Anne Vassivière qui s'intitulait « La perle rare », c'était bien sûr les mots de Pierre Perret et sa musique un peu joyeuse pour nous mettre d'aplomb après cette lecture qui ne s'achève pas évidemment dans un climax d'orgasme auquel vous auriez pu vous attendre, mais la nouvelle ne s'arrête pas là, elle est encore fort longue. Je vous invite à aller la lire et à surtout aller vous procurer cet ouvrage qui est vraiment super. Eh bien, bonsoir Chloé.
Bonsoir Agathe.
Nous sommes ravis de vous accueillir dans Bon Jouir, quel plaisir.
Ah ouais, j'adore être avec vous.
Mais oui, c'est toujours une joie. C'est une apparition fugace, mais c'est une apparition qui compte.
Oh merci.
Voilà, je voulais vous le dire. Alors, trêve de huilage, de choses comme ça. Maintenant, il serait temps, si vous le voulez bien, que vous nous disiez un peu quel mot vous avez au bord des lèvres cette semaine.
Ah oui, vous m'avez donné le mot sucre. Cette semaine.
C'est vrai.
Et alors, ça m'a fait un peu le même effet que si vous aviez ouvert un frigo en me donnant un poivron, une danette entamée et un fond de riz au lait en me disant « Allez, tiens, cuisine pour doux, s'il te plaît, moi je suis claquée. » Voilà, franchement, hein, je me suis sentie aussi désœuvrée avec le mot sucre qu'un, je sais pas, moi, qu'un Cyril Hanouna, un salon du livre. Hein. Qu'est-ce que c'est ? C'est par où ? Je dois faire quoi ? Ça m'a rien évoqué. Franchement, à part vous dire que le sucre est extrait du jus de betterave ou de canne... Voilà. En plus, je suis sûre qu'il doit bien exister un épisode du bus magique ou de C'est pas sorcier qui a été fait sur le sucre. Mmh. Puis je suis certaine aussi que ça vous dit quelque chose, que comme tout ce qui est hyper sympa dans la vie, il faut hyper pas en abuser. Hein. Voilà, c'est chiant, mais c'est comme ça. C'est pas moi qui ai décidé. Mais bon, vous me connaissez maintenant, je suis une chroniqueuse d'investigation. On me met le mot sucre au bord des lèvres, je m'exécute, hein, moi, consciencieusement, afin de mieux comprendre et de m'approcher au plus près de mon sujet. Je suis obligée cette semaine de poser ma langue sur un gâteau, d'aspirer le jus qui dégouline d'un quartier de clémentine et de sucer un carré de chocolat. Et vais-je procéder de la même manière le jour où vous me donnerez le mot Ryan Gosling ? Je n'aurai pas le choix. Hein. Vous attendez de moi un vrai travail de fond quant au sujet que vous me confiez et je prends cette tâche à bras le corps. Ça ne me dérange pas. Alors bon, à défaut de me pencher sur Ryan cette semaine, c'est donc sur le sucre que j'ai bûché. Et alors plus précisément sur les expressions qui emploient ce mot. Parce qu'il n'y a pas qu'en le mangeant que le sucre semble nous faire de l'effet. Il peut se casser sur le dos de quelqu'un ou de quelqu'une. Alors clairement quand on a envie de bitcher sur ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Mais étant personnellement une femme parfaite, sans aucune mauvaise intention ou inclination pour le mauvais esprit, je ne casse pas de sucre sur le dos de personne, encore moins sur celui de Jean-Marie Le Pen, hein, pendant qu'il sucrerait des fraises. Ce serait vraiment de mauvais goût et puis pas de saison, en plus. Être tout sucre est une expression faisant référence à la douceur du sucre qui était au XVIIe siècle un condiment très recherché par les plus riches et également rare. Voilà, quand une personne est tout sucre, elle force sa gentillesse pour séduire son interlocuteur. Et j'ai aucun commentaire à faire là-dessus, hein. Vraiment ça m'inspire pas grand-chose. Je vais d'ailleurs aller un petit peu plus vite dans l'énumération des autres expressions. Se faire sucrer son permis, une expression remise au goût du jour depuis février 2023 grâce à Pierre Palmade. En argot, se sucrer la gauche. Gaufre veut dire se poudrer le visage, expression aussi remise au goût du jour en février 2023 grâce à Pierre Palmade. En anglais, l'expression sugar daddy
ou sugar mama.
Je
l'attendais celui-là.
Mais je sais, je vous connais. Donc c'est des expressions qui désignent un homme ou une femme d'un certain âge, entretenant financièrement une personne beaucoup plus jeune en échange de relations sexuelles. Mais c'est pareil, hein, j'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Ah, si ce n'est qu'il semblait possible en 1987 de ne pas être obligé de payer les services sexuels rendus, comme le proposait pendant un temps l'auto-entreprise ardennaise d'un certain Michel Fourniret et de sa femme. En québécois, se sucrer le bec désigne l'action de manger des sucreries, mm-hmm. et l'on dit le temps des sucres pour évoquer la période pendant laquelle a lieu le prélèvement de l'eau d'érable. Ne pas être en sucre désigne le fait d'avoir de la force mentale ou physique ou les deux. Puis il existe encore vraiment moult expressions avec le mot sucre qui ne tiennent pas toutes malheureusement sur le plateau dessert qu'est ma chronique. J'ai enfin voulu terminer mon étude par des recherches de citations, mais c'était pas bien intéressant non plus. Hein. Preuve en est Tristan de Rème qui écrit « Le temps sur nos cheveux jette du sucre en poudre uniquement pour se déculpabiliser d'avoir des pellicules. » Quoi. Ne te sens pas obligé d'écrire des bouquins, hein, Tristan. Achète-toi un petit Head and Shoulders et puis tu seras libéré. Comme vous d'ailleurs, hein, que je vais laisser là de sucre. Vous bisant.
Oh,
oui, j'y fais. Fatiguée et vous bisant bien comme vous le méritez, oui. Avec toute mon estime et mon aspartame.
Bah écoutez, merci Chloé pour ces bises sans sucre, ouais, ou au sucre allégé.
Oui, oui, bah, petites sucrètes.
C'est
des
vrai.
Des bisettes sucrètes.
La sucrète. Trempons-nous la sucrète. Et ben, c'est vrai que j'attendais avec joie et un trépignement d'impatience contenu ce sugar daddy, car évidemment, qu'en disant sucre, je n'avais que ça en tête.
Connais.
Je suis tellement prévisible.
Mais je ne me satisfais pas de ça. Vous voyez, je vous vends des expressions québécoises.
Mais oui, mais vraiment, je trouve que Élise Lucet a peut-être intérêt à se visser à sa chaise, car la relève est là, Élise. Faites attention. Il y a du
Ryan.
Monde au balcon et il y a du monde derrière vous, Élise. Faites gaffe. Et vivement Ryan, exactement. C'est vrai que ça donne envie un peu de pouvoir... Bah, je sais pas, vous partagez des personnalités plutôt que des mots. Tiens, j'y réfléchirai.
Ah.
On va peut-être faire évoluer un peu la chronique.
Ouch. On passe au monde 2.
Le level au-dessus. Par exemple, un exemple. Qui avez-vous au bord des lèvres cette semaine, Chloé? Eh bien, j'avais Michel Fourniret. Alors là...
Ah, j'ai passé un bon moment, écoutez.
Voilà, ça peut amener des moments cocasses. Oh, quel joli mot. Bon, eh bien, merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Dripping on him. I met him at the bar, I was 12 or something. I ordered two more wines, cause at night I want him. A little context if you care to listen. I found myself in a shit position. The man that I love sat me down last night, and he told me that it's over, dumb decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission in my little black dress, and this shit is just a heartbroken bitch, high heel 6 inch in the back of the night. Sipping champagne, I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk, cold drunk, text drunk, tears drunk. Back eyes looking for a man who's on the same page. Now it's back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old ways. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Take this pain away.
Give me my symptoms, doctor. I don't wanna feel.
Coke this joint, how I'm blowing this steam. Back to my ways like 2019, not 24 hours since my ex did. I got a new man on me, it's about to get on. Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately, and I'm finding it
privilege.
Excuse my state, I'm as high as your hopes. Say you'll make it to my bed, get me all answers. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the part of 2 pieces I'm tripping in. Sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing. Oh, drunk.
C'était intéressant aussi de pouvoir se dire que cette injonction à la jouissance, que derrière le fait d'avoir des rapports sexuels et de motiver peut-être nos chers auditorices, auditoresses, auditoireuses au plaisir et au rapport sexuel n'est évidemment pas une injonction à l'orgasme, une injonction à tout ça, mais au contraire plutôt de se donner un simple temps pour soi. Et puis voir, voilà, où ça nous emmène. En tout cas, là où ça nous emmène, nous, c'est à la fin de cette émission. Et oui, déjà, le temps passe quand même très vite. Alors, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, toujours à 23h. Je vous propose aussi eh bien, que vous alliez notamment musarder du côté de la Musardine à Paris, cette maison d'édition dont vous pouvez aussi aller musarder sur leur site internet pour peut-être vous acheter des ouvrages, acheter de la littérature érotique. C'est pas forcément dépenser un fric fou, d'autant que sur internet vous pouvez acheter des versions PDF des ouvrages et donc vous offrir du cul eh bien à finalement assez bas prix, voilà. Et je crois que eh ben lire de toute façon ça ouvre les imaginaires, ça ouvre des espaces dans la tête, et lire de la littérature érotique, ben, ça ouvre d'autres choses peut-être. Ça peut ouvrir les anus, les chattes, les urètres, tous les orifices possibles. Et puis surtout, eh bien, l'imagination un petit peu joueuse, l'imagination qui ne se prend pas trop au sérieux, celle dont on a besoin aussi pour pouvoir, il me semble, se sentir en vie. Voilà. Bonjour, s'achève donc ici pour cette semaine. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à partager le lien de l'émission puisque vous scrollez sur vos réseaux sociaux. Soyez utile, au moins défendez les petits artisans locaux. Et oui. Et on se retrouve dimanche prochain à 23h. D'ici là, passez une cyprinement belle semaine sur Canal B.